posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Bonsoir. Oui, ça en est encore passé des choses aujourd'hui sur la scène mondiale avec ce sommet historique à Singapour entre Kim et Trump. Alors la Corée du Nord, elle s'engage pour une dénucléarisation totale. Faudra être juste encore un petit peu plus précis que ça. N'empêche, la Corée du Sud, elle parle carrément, de fin de la guerre froide. Alors, on peut quand même aussi se poser une question. Est-ce que profitant de cette détente, la Chine ne va pas en profiter justement pour s'installer complètement dans la région? Et on voit un monde qui est complètement chamboulé depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Tenez encore, par exemple, le week-end dernier, le fiasco du G7. Et puis, en face, la bonne entente, la bonne tenue du sommet de Shanghai, du forum de Shanghai avec Xi, avec Rouhani, avec Poutine. Alors justement, à l'issue de cette rencontre, Kim, Trump, est-ce qu'un nouveau monde se profile? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, on ira probablement au-delà de cette rencontre historique de Singapour, donc ce matin, entre Kim et Trump. On verra si c'est juste symbolique ou évidemment s'il faut espérer davantage. En tout cas, on verra aussi les conséquences stratégiques, conséquences économiques également. On est sur BFM Business et on va en parler, bien entendu, avec Jean-Éric Brana, grand spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Assas Paris 2, qui a publié il y a quelques semaines, 1968, quand l'Amérique gronde. Qu'est-ce qui avait 20 ans, 68? Monsieur Trump, c'est ça, on va en parler beaucoup de Trump. Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Centre, directeur de la revue Asia Trends, et puis Pierre Servant, écrivain, spécialiste des questions militaires, des questions stratégiques, qui a fait publier, lui, c'était en mai, 50 nuances de guerre. Alors, la première rencontre entre un président américain en exercice et un responsable, un dictateur, un leader nord-coréen, 5 heures d'entretien, donc la nuit dernière à Singapour, tête à tête, déjeuner, des poignées de main historiques, échange d'amabilité, une bonne entente affichée, la signature d'un document commun, Kim et Trump.
Les vieux préjugés et les habitudes anciennes ont été autant d'obstacles, mais nous les avons tous surmontés pour nous retrouver ici aujourd'hui.
On a pensé pendant longtemps que ça serait impossible, mais c'est le cas aujourd'hui. C'est une journée formidable, une journée historique.
Voilà, une journée historique, disait le président américain, donc à l'occasion d'une conférence de presse, alors que le responsable nord-coréen était déjà reparti. Alors, que lit-on dans ce document ? Le président américain assure que ce processus de dénucléarisation auquel s'engage la Corée du Nord pourra désormais commencer très rapidement. Kim Jong-un réaffirme son engagement ferme et inébranlable en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Et puis aussi cette grosse concession de la part de Trump, la fin des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. On va y revenir. Simplement, tiens, petit tour de table. Je sais pas par qui je commence. Involontaire. Allez, Pierre Servant, c'est pas grave. Qu'en retenir? Quel est le point majeur donc de cette rencontre Kim-Trump? Puis on verra justement ce qui va se passer dans la région.
Le point majeur, c'est qu'elle ait eu lieu, cette rencontre. Ouais. Vous avez eu la gentillesse de citer mon dernier livre. Ce que j'y dis sur ce dossier, c'est que avant la fin 2018, soit il y a une avancée diplomatique majeure, soit il y aura la guerre, c'est-à-dire des frappes américaines, des frappes de décapitation d'un certain nombre de lieux dédiés à l'arme nucléaire. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit passé. Maintenant, je dois vous avouer que je n'arrive pas à me défaire de la sensation de grotesque de cette affaire, de la façon dont Trump a tenu sa conférence de presse, qui était pour moi hallucinante, tellement elle est révélatrice de la psychologie infantile de ce personnage. Et donc, je me félicite de ce résultat, parce que c'est mieux que la perspective de guerre, et nous gagnons quelques mois, en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de frappe et de guerre en 2018, mais je pense que c'est reculer pour mieux sauter, tellement ce personnage de Donald Trump est pour moi, tout à fait imprévisible, il est capable de choses tout à fait stupéfiantes, et si on regarde la séquence de ces derniers jours, il met des claques à ses alliés d'une façon...
On va y revenir, au G7, au Canada.
Gravissime. Non pas qu'il n'y ait pas des critiques à faire au G7, c'est tout ça, les prédécesseurs ont pu le faire, ou même sur l'OTAN, Obama, Clinton, ça fait très longtemps qu'ils disent aux Européens, prenez votre défense en main.
C'est-à-dire, et payez.
La façon de faire, c'est-à-dire cette façon dans l'avion d'envoyer un type pour enlever un tweet, pour enlever sa signature, enfin, c'est pathétique. Donc, il met des claques à ses alliés, qui sont a priori quand même plutôt des démocraties, pour aller embrasser sur la bouche ce personnage improbable, etc. Et juste pour terminer...
En même temps, il n'a pas fait allégeance à Kim Jong-un.
Non, sauf que si vous voulez, il lui donne ce personnage qui est le dernier grand dictateur sanguinaire de la planète, se trouve propulsé à un niveau. Et ce qui est très frappant dans la conférence de presse, c'est qu'il dit pourquoi il aime Kim Jong-un. Il dit, cet homme tient son pays. En fait, c'est, si vous voulez, pour moi, la psychologie de Trump, c'est la psychologie des nouveaux temps, c'est la psychologie des prédateurs, et donc je pense que ça se terminera mal. Et juste pour terminer d'un mot, pour symboliser vraiment ma pensée de fond, c'est que Trump, les Américains disent, c'est trophy girls, c'est-à-dire un homme qui aime bien avoir des femmes trophées. Il y a des femmes qui valorisent, surtout des hommes un peu avec l'âge, qui marquent, disons, à la fois la chevelure, éventuellement l'embonpoint. Et donc, trophy girls, c'est une femme trophée. Là, il a trophy deal, donc c'est un trophée pour lui, et il montre qu'il est capable de faire des deals internationaux. Et mon inquiétude, et je termine là-dessus, c'est que comme, là aussi la conférence de presse que j'ai suivie de bout en bout, qui est un... Il faut faire travailler, il faut faire venir un psychanalyste la prochaine fois. Oh. Eh bien,
je ne suis pas sûr que je sois d'accord, mais on va lui donner la parole.
Montre que il est convaincu d'être le nouveau génie des temps modernes, qu'on peut faire des deals internationaux sur des sujets complexes comme le nucléaire, sur lequel il a absolument pas bossé et dont il connaît pas une ligne. Il fait référence à son tonton d'Amérique, du MIT, avec qui il a beaucoup parlé de ces sujets. Donc voilà, je me réjouis du fait que la perspective de la guerre s'éloigne. Et je trouve cette rencontre, pour moi, elle relève du domaine du grotesque.
Bon, alors, Jean-Éric Brana. Bon, alors, ne vous emportez pas, s'il vous plaît.
Je me suis beaucoup... Bon. C'était très amusant d'écouter Pierre, je veux dire.
Jean-Éric, il fallait la faire ou pas, cette rencontre entre Trump et Kim?
Après évidemment
tout, les deux ennemis ont intérêt peut-être à se voir. Mais est-ce que c'était grotesque au point que le décrivait Pierre Servan?
C'est bien amusé pendant 10 minutes à nous expliquer.
Bon, vous allez faire moins long, hein. Voilà.
Tel qu'il le voyait. En réalité, il n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que les grandes lignes, c'est quoi aujourd'hui? C'est un moment de paix. Et qu'il vaut quand même mieux miser sur un moment de paix que sur un moment de guerre.
C'est vrai.
On se retrouve quand même là-dessus.
Il y avait un peu de provoque, Pierre, quand même.
Non, évidemment.
Un peu de provoque. Mais quand même avec, ouais. Si, une inquiétude sur le court et moyen terme quand même sur cette affaire.
En réalité, ce qu'on va retenir de la journée, demain on verra, ce sera un autre temps, mais aujourd'hui qui est la journée du 12 juin, on va rester sur cette note positive. Quand il y a un moment de paix parce que des hommes de bonne volonté
se parlent
et se serrent la main, on va se dire, ouf, on est tous en train de respirer, on est dans la détente, tout le monde s'est calmé un petit peu. Il y a un an, je vous rappelle, qu'on était autour de ce plateau en train de se dire, va-t-il y avoir des bombes qui vont tomber de part et d'autre, la Corée du Nord va-t-elle être détruite par le méchant Trump, et le méchant Kim Jong-un va-t-il détruire l'île de Guam? C'était à peu près ce qu'on racontait. Donc c'est plus le discours d'aujourd'hui. La question qui va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce que effectivement les choses vont se mettre en place? Mais Donald Trump n'est pas tout seul. Je vous rappelle qu'il est président d'un pays dans lequel il y a 320 millions d'habitants, dont il y a quelques personnes autour de lui qui ont des choses à dire, des choses à faire. Et en premier lieu, il a amené dans ses bagages un homme qui s'appelle Pompeo, qui est le diplomate en chef, parce que ce qui arrive juste derrière, c'est que la diplomatie prend le dessus. Donc on est dans
dès
un
la
autre
semaine prochaine,
temps.
Hein, voilà, il y a des négociations qui vont commencer la semaine prochaine sous la houlette de Pompeo.
Mais bien entendu, c'est lui qui va prendre le relais et on va parler dans les équilibres là tout à l'heure dans l'émission, les équilibres en gros, parce qu'il y a quand même la Corée du Sud qui est très importante. Moon Jae-in a fait des efforts extraordinaires pour que cette affaire-là se passe comme elle s'est passée, même s'il a été surpris sur un détail effectivement avec l'arrêt des manœuvres militaires entre eux, il s'y attendait pas, mais bon, il y a toujours des surprises dans ce genre de négociations. Il va y avoir les Chinois, il va y avoir la réaction de la Russie aussi, il va y avoir la réaction du Japon, d'autres pays. Mais globalement, ce que j'entends quand même venir du monde entier, c'est une satisfaction prudente, mais satisfaction, parce qu'on est dans un temps de paix.
Le début d'une nouvelle histoire, disait même Pékin, le Japon, qui se réjouit d'un premier pas vers une résolution d'ensemble. Alors, ils sont assez plus timorés, puis un petit peu plus loin, c'était la France qui salue une première étape, donc après la conclusion de
cette déclaration. Et juste pour terminer, avant qu'on rentre plus dans le débat, alors l'exposé que venait faire Pierre m'a amusé pour une autre raison, c'est que c'était exactement l'article du Washington Post, une fois que l'affaire s'est passée, ils ont dégainé, et je dis bien dégainé, parce qu'on sentait qu'il fallait à tout prix arrêter, atténuer, là aussi on va en parler, l'effet positif sur les électeurs américains de cette affaire-là, qui est quand même énorme. Quand on parle de paix, on est au pays où John Lennon s'est installé. Tout le monde la préfère, bien évidemment. Et le Washington Post a dégainé en disant, mais enfin, Trump préfère parler à des dictateurs plutôt qu'à des démocrates. Et effectivement, c'est ce qu'on a entendu toute la journée aux États-Unis et qu'on va entendre dans les jours qui viennent, parce que c'est effectivement une manière de faire penser aux gens qu'il y aurait peut-être de l'instabilité mentale. Encore une fois, ce que je trouve effectivement, et c'est pour ça que vous disiez que j'allais pas être d'accord, assez déloyal, je crois toujours, et je le dis et je le redis, déloyal qu'on attaque quelqu'un à nominem quand on n'est pas soi-même un psychiatre et qu'on n'a pas reçu en consultation la personne. Personnellement, il me semble qu'on a d'autres arguments pour attaquer politiquement quelqu'un, et que Donald Trump donne suffisamment flanc à des attaques pour qu'on l'attaque plutôt sur d'autres choses.
Alors, Jean-François Dimiglio, alors qu'est-ce qu'il faut en retenir? Est-ce qu'il fallait un tel sommet pour lire tout ça? Est-ce que c'est un point de départ positif ou alors? Parce que le texte ne dit pas que la dénucléarisation doit être vérifiable et irréversible, même si Trump, il affirme que cette dénucléarisation fera bien l'objet de vérification, etc. Qui va vérifier cette dénucléarisation? Est-ce que ce n'est pas un poil flou, un poil vague, ce qui s'est dit ce matin, franchement, Jean-François?
C'est le début. Deux choses. Moi, je retiens deux choses. Il y a quand même un personnage dont nos amis n'ont pas parlé. C'est le jeune Kim. On voit quand même une extraordinaire nouveauté à la fois pour lui et pour le reste du monde, un dirigeant nord-coréen qui, pour une fois, ne va ni à Moscou, ni à Pékin.
Ouais.
Et je dirais pas qu'il est normal, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais on a vu un dirigeant nord-coréen esquisser des sourires, regarder dans les yeux un dirigeant d'un pays étranger, ou dans ce monde,
se promener avec lui dans le jardin de l'hôtel, et même il a failli rentrer dans la voiture blindée de Trump, parce qu'à un moment ils sont passés devant la voiture blindée de Trump, et Trump lui a ouvert la porte et lui a montré l'intérieur.
Si on veut parler de début de normalisation, quelle image plus frappante qu'effectivement ce jeune dirigeant nord-coréen qui, ça c'est la première chose.
Alors ça c'est la première chose.
La deuxième chose que moi je retiens, c'est que, souvenez-vous, pourquoi est-ce que on a failli arriver à la guerre, comme le disait Pierre il y a quelque temps? Parce que on avait autrefois ce qu'on appelait des six-party talks, des conversations à six. Et puis ces conversations à six qui avaient conduit deux fois à un quasi-accord, s'étaient effondrées.
94 et 2005.
Et il n'y avait plus rien.
Voilà.
Et par quoi est-ce qu'on remplace les conversations à six, dans lesquelles il y avait la Chine, dans lesquelles il y avait le Japon, dans lesquelles il y avait la Russie, du bilatéral.
Alors que la Chine, elle militait toujours pour du six.
Et voilà. Du bilatéral de quel ordre? Un très très grand, et, j'allais dire, un moins que rien. Et ce qui est fort dans cette histoire, c'est que déjà on se passe des autres, et en plus, on a quelqu'un qui, parce qu'il faut faire un deal, parce que, effectivement, on parle de trophée, mais c'est un peu comme quand un investment banker va mettre sur sa cheminée, effectivement, ce qu'on appelle le tombstone, c'est-à-dire la marque, le souvenir du deal qu'il a fait. Peu importe qu'il ait fait le deal avec une grande boîte ou avec une petite boîte, il a fait une OPA. Et je pense que dans la tête de Trump, ce que nous voyons comme deux égos qui se parlent, à toutes les orthographes du mot égo, eh ben, c'est aussi une OPA que le dealmaker a fait sur le petit.
Bon,
mais ça, personne d'autre dans les quatre autres qui ne sont pas là n'était capable d'y arriver.
Pékin, on verra, on reparlera quand même de Pékin, qui a quand même un rôle à part, qui n'était quand même pas très très loin. Juste une réponse assez courte, Pierre Servance, au stratège que je m'adresse, à l'auteur de 50 nuances de guerre. Je disais, est-ce que c'est pas un peu vague quand même ce qui s'est dit en termes de calendrier, d'engagement? Et Jean-François Dimiglio le rappelait, on a failli avoir des accords déjà en 94, en 2005, et puis boum, voilà, aucun d'entre eux n'a jamais été appliqué. Est-ce que Pyongyang n'est pas le spécialiste des promesses non tenues? Est-ce qu'il faut leur faire confiance, justement, quand ils disent, voilà, il y aura une dénucléarisation totale?
Non, je ne crois pas qu'on puisse leur faire confiance. Je pense d'ailleurs que le flou du premier contenu, même si on peut le comprendre comme une amorce de dialogue, laisse en suspension énormément de choses. C'est un pays qui a également un armement conventionnel et bactériologique et chimique extrêmement important, qui fout la trouille la Corée du Sud et qui n'est pas du tout évoqué. Par ailleurs, la formule de dénucléarisation de la péninsule coréenne, alors là, je la comprends pas du tout, parce qu'elle n'est pas du ressort de la Corée du Nord. Non. Elle peut être de la responsabilité des Américains qui conservent, je dirais, une protection, y compris nucléaire, sur ses alliés. En revanche, ce à quoi pourrait s'engager effectivement le numéro 1 de Corée du Nord, c'est un démantèlement complet, vérifiable, irréversible, ce qui s'est bien gardé de faire. Donc je ne crois pas à la sincérité de la démarche de Kim. Je pense qu'il a vraiment eu la trouille, entre guillemets, d'opérations militaires, parce que les Américains, le président Trump a envoyé...
C'était dans les tuyaux, franchement. Au-delà de la rhétorique,
oui,
au-delà de la menace verbale.
J'ai changé d'opinion, comme quoi je vais éventuellement changer à la lumière de ce qui pourrait se passer. Je ne pensais pas que l'option militaire, comme l'a dit Trump à plusieurs reprises, était sur la table. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments, notamment le fait que le chef d'état-major américain, la plus haute autorité américaine, ait été envoyé à Pékin à plusieurs reprises. Mm-hmm. Et à mon avis, c'est pas pour faire du tricot. Et je pense réellement que Trump... Et là, pour le coup, je ne mets pas en cause son caractère extrêmement étrange et baroque, c'est que les Américains, quel que soit le président, ne peuvent pas accepter d'être potentiellement aujourd'hui, menacé, demain, possible, après-demain, sous une menace nucléaire. Rappelez-vous de Reagan, le rêve de la guerre des étoiles, c'était le rêve messianique de Reagan de mettre un bouclier total, formidable, sur le pays.
Bon,
et ça correspond à la volonté de tous les présidents. Ouais. Trump, ça. Et donc, effectivement, là, je pense qu'il y a eu réellement ça, plus le fait que la Chine en avait marre aussi de ce filleul Trublion, qui gênait une stratégie de conquête du pouvoir. Jean-François Dimeglio connaît ça mieux que moi, mais qui empêchait l'éviction des Américains de la zone, puisque la menace nord-coréenne, renforçait une demande de réassurance américaine. Et ça, pour les Chinois, c'est le grand problème, puisqu'ils veulent sortir absolument les Américains du paysage, comme Poutine veut sortir les Américains de Méditerranée, en disant la Deuxième Guerre mondiale, c'est terminé. Là, pour le coup, pour répondre au titre, à l'excellent titre de votre émission, c'est une volonté de changer les
cartes.
De
nouveau monde,
et
voilà.
De dire, on arrête de vivre avec l'ombre portée des grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais, on y reviendra justement. Est-ce que la Chine va en profiter ou pas pour s'installer, profitant de cette détente? Juste encore un mot, toujours avec Pierre. Prenez la parole, Jean-Éric et Jean-François. Le gel des manœuvres américaines, c'était un vrai point de crispation, justement. C'était une vieille exigence de Pyongyang, hein, justement. Pourquoi a-t-il créé cette surprise, Donald Trump?
Alors, apparemment, parce qu'il s'en fout totalement.
Ah?
Mais oui, parce que ça coûte de l'argent.
Oui.
Ça coûte de l'argent, ces manœuvres, vous imaginez pas. C'est d'ailleurs un des éléments de blocage dans le monde contemporain de la guerre franche et brutale, c'est que tout le monde regarde sa ligne de crédit et combien ça coûte. Les armements modernes, la mise en œuvre des armements modernes, pardonnez l'expression, ça coûte la peau des fesses. Or, tous les pays aujourd'hui du monde font attention à leur fin de mois, et les Américains vont très très bien sur ce plan-là, mais Trump souhaite conserver ça. Donc pour Trump, il voit pas l'intérêt de ces manœuvres-là, c'est de la gesticulation, ça coûte de l'argent, le lâcher dans la corbeille de mariage, ça présente aucun problème. Alors la réaction du côté de Séoul, à mon avis, et des Japonais, ça va être un petit peu différent, en se disant, mais il va nous faire quoi, Trump, dans ce deal?
Alors justement, Jean-Éric Brun à côté américain, et puis Jean-François Dimeglio à la tête de l'Asia Centre. Jean-Éric, s'il vous plaît.
Oui, non, je rejoins ce qui vient d'être dit. Je vais rajouter en plus que c'est une logique par rapport à ce qui vient de s'être fait au cours de l'année qui vient de passer. Pour dire concrètement, Thaad, qui est donc le bouclier
antimissile,
qui a été voulu par Obama, qui était payé par les Américains, maintenant est payé par Séoul, puisque Trump a transféré la note en disant, bah écoutez, moi c'est fini, je paye plus.
Vous l'avez défendu, bah payez.
Bah oui. Souvenons-nous aussi en août, quand un missile était tiré, au lieu de s'énerver, parce qu'à ce moment-là il s'était pas énervé du tout, on l'avait pas entendu, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des émissaires qui disaient, mais moi je peux vous vendre des armes. et il faisait à ce moment-là un deal avec Séoul en leur vendant des armes beaucoup plus modernes. Et donc on voyait bien que la logique, c'était la logique du porte-monnaie, que ça a pas changé. Il l'a annoncé régulièrement en disant, vous savez, ces soldats, j'en ai 30 000, ça coûte beaucoup d'argent, hein, de mettre des soldats. Là,
Ça coûte beaucoup d'argent, un soldat, on est bien d'accord.
Précision quand même, Jean-Éric, Donald Trump a dit ne pas envisager une réduction de la présence militaire américaine en Corée du Sud.
Ah non, pour le moment. Il a dit exactement le contraire. Il a dit il faudra bien les sortir, mais pas pour le moment.
Pas pour le moment, c'est ça. Mais
il faudra bien les sortir était aussi dans la phrase aujourd'hui. Donc on va retenir celle-là parce que ça coûte de l'argent et c'est exactement ce qu'il a dit. Donc on retire rien. Mais les manœuvres aussi, ça coûte de l'argent. Donc si ça embêtait Kim Jong-un, bon, on va arrêter ça. C'est pas grand-chose de les arrêter. Après tout,
on peut faire
les
ça,
soldats sont toujours là pour le moment. Mais pour le moment.
Jean-François Dimiglio, Oasis Centre.
Oui, alors Moon Jae-in, d'ailleurs.
Les Coréens, les Japonais ont-ils des raisons de se sentir vulnérables, un peu plus vulnérables justement du fait de l'arrêt de ces manœuvres?
Pour reprendre aussi le titre de votre émission, ça fait quand même
un nouveau monde se profile.
Et oui, ça fait quand même un petit moment que les Japonais et les Coréens entendent tout et son contraire. Et c'est pas de nature à les rassurer. Hein, quand Trump est déjà avant Trump, on leur a parlé de pivot asiatique et puis de rebalancing. Bien sûr, il y a eu des efforts américains qui ont été faits sous Obama, mais est-ce qu'on a réellement vu un rebalancing? Est-ce que ça n'a pas été beaucoup de mots pour finalement pas énormément d'actes? À chaque fois qu'Hillary Clinton est venue en Asie, ça n'a pas été un réconfort extraordinaire pour la région. Donc, on est entré, avant même Trump, dans une période où le doute s'installait.
Tout juste.
Lorsqu'il y a eu effectivement des frictions sur les couloirs aériens entre le Japon et la Chine, sur la mer de Chine.
Sur les îles, bien sûr.
Bien sûr qu'il y a eu des réactions américaines, c'était la moindre des choses. Bien sûr aussi que, dans la mer de Chine du Sud, pour remettre tout ça dans la perspective régionale, les navires américains font des choses que les autres navires occidentaux ne font pas. C'est-à-dire qu'ils entrent dans les 12 nautiques, ils font des manœuvres, c'est-à-dire que nous traversons la mer de Chine du Sud, les Chinois nous accompagnent, alors que les navires américains, Pierre le confirmera probablement, entrent dans les 12 nautiques, font des petits tours dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en manœuvre, mais en tout cas, ils ne sont pas simplement en transit.
Un mot, et donc, puis on revient avec tout le monde.
Le chaud et le froid.
Oui, mais Pierre, un mot, en effet, sur ce que disait Jean-François
Dumédio. Tout à fait. Et il y a une espèce de, comment dirais-je, de tension permanente en mer de Chine méridionale. Sauf ces derniers temps, visiblement, les Chinois ont levé le pied. Parce que jusqu'à ces derniers temps, les avions américains Poséidon qui surveillent la zone et qui, en quelque sorte, manifestent le refus des Américains des revendications chinoises en termes de souveraineté sur certains espaces.
Zilo, oui.
Ils sont pas des, notamment
ils
la
sont des récifs, oui.
Exactement. Et les avions américains étaient accrochés par les conduites de tir chinoises. et donc, on était vraiment dans des gesticulations très tendues.
Juste pour répondre à
Fabrice,
les Japonais et les Coréens sont mal à l'aise. Ils ont raison, mais en même temps, tout n'est pas complètement en leur défaveur. Il y a aussi des signes de présence américaine. Juste un mot sur Shangri-La. Il y a ce fameux dialogue stratégique tous les ans à Singapour. Les Américains ont parlé d'une voix très forte. En face, les Chinois ont été beaucoup moins vocaux.
Qu'est-ce qui leur donne des raisons d'espérer, là, les Chinois, les Coréens du Sud et les Japonais, enfin, en tout cas, d'être moins inquiets?
Ils sentent quand même que malgré les paroles, cette présence, tant qu'on ne s'est pas retiré, elle est quand même bien là. Donc on a dit il y aurait pas de manœuvre, mais voilà. Disons qu'on est dans une période de doute, et ça c'est exactement votre titre.
Voilà, alors justement, un nouveau monde se profile-t-il? On va continuer, ils sont passionnants, Jean-Éric Brana, Jean-François Dimiglio, Pierre Servant. Et on verra justement si la Chine ne va pas en profiter pour aller s'installer complètement dans la région, justement, intérêt stratégique, intérêt économique. On revient avec les décodeurs de l'écho, tout de suite sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, autour de ce chamboule-tout diplomatique, on reviendra d'ailleurs dans quelques minutes sur ce week-end complètement hallucinant avec le fiasco du G7 au Canada. Et puis la bonne tenue du sommet de Shanghai, du forum de Shanghai, donc avec Poutine, avec Xi, avec Rouhani et bien d'autres. Hein, voilà, donc mon contraste extrêmement important. Et puis donc ce matin à Singapour, la rencontre Kim Jong-un avec Donald Trump. Tiens, est-ce que ça vaut un prix Nobel de la paix cette histoire? Jean-Éric Brana avec nous, spécialiste des États-Unis, maître de conf à Assas Paris 2.
Ah, j'aimerais bien vous faire une réponse très courte avec oui, non. En vérité, ça demande un tout petit développement parce qu'il faut bien mettre sur la table certains éléments. D'abord que ce président est un petit peu embarrassant, on va dire comme ça. Il y a quand même eu des outrances pendant... Je parle de Donald Trump, de puisque Trump. C'est de lui dont on parle quand on parle du prix Nobel de la paix.
Ah bah, on aurait pu aussi...
J'y arrive tout de suite.
Alors,
et c'est vrai que les outrances et les attaques aux femmes, aux minorités, etc. Vont quand même peser très lourd dans la tête du jury. La deuxième chose, c'est que Kim Jong-un, ça semble inimaginable de lui donner un prix Nobel de la paix au regard de ce qui s'est passé en Corée du Nord. C'est quand même pour la planète, le dictateur sanguinaire. Donc, si on commence à lui donner un prix Nobel de la paix à lui,
on a quand même une vraie révolution.
Alors, ce qui nous arrange bien, c'est que c'est trop tard pour cette année, puisqu'il fallait déposer la candidature en février. D'accord. Et donc, et puis, ce qui nous arrange bien également, c'est que pour l'instant, la paix n'est pas faite. Mais le traité de paix devrait suivre très vite, puisqu'il est annoncé dans l'accord.
En Corée du Sud et Corée du Nord.
Sera faite, oui. Et qu'on peut s'attendre à ce que Donald Trump fasse tout pour que ça se fasse, septembre-octobre, c'est-à-dire juste avant les élections.
Tiens donc, bonne idée, Jean-Éric Brana. Jean-François Di Meglio à la tête de l'Asie Centre.
Pas sûr qu'il y ait un prix Nobel de la paix attribué, même cette année, l'année prochaine. Vous savez que le jury Nobel, il a des petites préoccupations.
Vous avez raison. Donc, problème, quoi, de déontologie, c'est ça.
Ça permet de ne pas répondre. Oui.
Tout juste. Pierre Servant, imaginons qu'il y en ait un.
Non.
Bon, très bien. Alors on enchaîne. Bon, oui, c'est Pékin qui disait le début d'une nouvelle histoire dans la région. Voilà, très bien. Alors oui, on a vu. Soyons optimistes. On verra si des progrès peuvent effectivement arriver sur le terrain dans la péninsule coréenne. Vous y croyez quand même, Pierre ?
Je reste. Enfin, progrès. Si. Là, ça va détendre.
Il va y avoir, bien sûr.
Oui, non, ça va détendre pendant un certain temps.
D'accord.
Mais je dis non parce que je n'arrive pas à croire que le numéro un nord-coréen ne va pas rester marqué par l'exemple de l'Iran. Et de la demande de Trump, finalement, de déborder un accord qui avait été fait à plusieurs, scellé quand même, et vérifié, pour le coup, était vérifié.
Et puis qui est cassé d'un seul coup par Trump.
Exactement. Le point important, notamment, c'est que les Iraniens, parce que là, le président français s'est beaucoup démené pour essayer de sauver quelque chose de cet accord, ce qui n'était pas un traité,
c'était un accord. Et les Chinois et les Russes, ils l'ont redit, donc, en Chine.
Et le point, notamment, c'était d'essayer d'inclure les missiles balistiques. Alors, est-ce que le régime va accepter, parce que c'est quand même une forme d'atteinte à la souveraineté.
C'est l'assurance vie aussi du régime nord-coréen.
Voilà, c'est vraiment là. C'est pour ça que je crois que quand on va commencer vraiment à rentrer dans la matière, pas seulement la matière fissile, la matière qui sert à faire les armes nucléaires, ça va se tendre. Et encore une fois, je vois pas comment le régime va pouvoir tenir. Dernier point, le président Kim Jong-un a quand même procédé à des limogeages de militaires ces derniers temps. Donc, il a fait un certain ménage pour certainement se préserver. Est-ce que lui-même peut rester vulnérable à un coup d'État intérieur ? Je ne sais pas, mais la question se pose.
Alors, est-ce que la Chine va profiter de cette détente ? Jean-François Di Meglio, vous êtes le président de l'Asie Centre. Alors, c'est vrai, à Singapour, bon, évidemment, il y avait Kim, il y avait Trump, bien sûr. Il n'y avait pas de Sud-Coréen, il n'y avait pas de Japonais, il n'y avait pas de Russe, il n'y avait pas non plus de Chinois. Le grand absent, pourtant, très présent, les Chinois. La Chine, elle aura peut-être un rôle dans ce processus de dénucléarisation, justement.
Alors, elle a une présence subliminale, si vous me permettez, et très chinoise. Parce que il ne vous a pas échappé que l'avion dont descendait Kim Jong-un, c'était un avion chinois.
D'accord.
Avec écrit en très gros, lignes aériennes chinoises.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est une façon pour la Chine, qui quand même a été marginalisé quand même. On va sûrement débattre du rôle exact de la Chine et de l'influence qu'elle a pu avoir. Il y a eu deux voyages de Kim Jong-un à Pékin pendant toute la période qui a précédé le sommet. Donc la Chine n'est pas complètement absente, mais elle a un rôle en sourdine dont il faut évaluer dans les semaines qui viennent de quelle ampleur il a été. Parce qu'effectivement, ce petit signal est extrêmement intéressant. Je ne suis pas là, mais je suis là. Sans moi, ce garçon n'arrivait pas jusqu'à Singapour. Son avion a juste assez d'autonomie pour arriver à Singapour, mais si vous voulez une marge de sécurité, et je trouve que le message est extraordinaire, la Chine procure à l'avion de Kim Jong-un la marge de sécurité nécessaire pour atterrir en toute sécurité à Singapour.
Ouais, c'est bien, Jean-François. Oui.
Et l'image, c'est le leader nord-coréen descendant d'une passerelle où vous avez écrit Air China.
Tout juste.
Donc elle est là.
La rivalité...
Mais je suis incapable de dire quelle est l'ampleur de son rôle. Parce qu'on a l'impression que dans ce temps amorti, qui est le temps dans lequel la Chine aime jouer, il y a des accélérations, des ralentissements, et ça, comme beaucoup de choses chez Trump, elle n'aime pas trop. Ouais. Elle aime être la maîtresse du temps. Et là, clairement, même si elle a joué un rôle, elle n'a pas été la maîtresse du temps.
La rivalité Chine-États-Unis, elle était aussi au cœur de cette rencontre. J'ai l'impression. Vous nous dites, c'est le sujet, Jean-François Démilio, parce que il y a un intérêt stratégique. La présence des Américains en Corée du Sud et au-delà, est-ce qu'elle sera encore nécessaire? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que la Chine, quelque part, espère leur départ? Est-ce qu'elle va en profiter pour s'installer complètement dans la région, mettre la main sur toute l'Asie, la mer de Chine, les archipels, les fameux îlots dont on parlait, Taïwan, pourquoi pas? Jean-Éric Brana, Jean-François Démilio et Pierre Servant, un mot chacun, s'il vous plaît.
Oui, je crois qu'on est autour du plateau tous d'accord, effectivement, pour dire que c'est là où il faut regarder plus qu'encore en Corée du Nord. En réalité, je vais faire très court, mais en réalité, pendant la campagne, la cible principale Donald Trump, c'était la Chine. Et ça n'a pas changé. Depuis qu'il est là, effectivement, il essaie de rééquilibrer la balance commerciale avec les Chinois, la puissance entre les États-Unis et les Chinois. Ça se passe sur différents terrains politiques, diplomatiques et commerciaux. Et effectivement, c'est là où ça va se jouer dans les tout prochains mois.
Pierre Servant.
Très frappant dans la conférence de presse du président Trump, il a tiré des coups de chapeau à son grand ami, le numéro un chinois, Xi Jinping, à plusieurs reprises, de façon très très appuyée. Et on sentait aussi que pour lui, c'est un président qui tient la route parce qu'il tient son pays de façon très 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 ferme et que finalement ça lui convient très bien. Maintenant, il y a confrontation nécessairement. Alors ceci dit, pardonnez-moi, Trump a aussi rappelé, se rendant compte presque qu'il donnait trop de coups de chapeau à la Chine, à une réponse d'un journaliste en disant « Oui, mais attendez, on est quand même deux fois plus puissant qu'eux ». Et en termes militaires, c'est notamment trois fois plus puissant qu'eux. Mais je pense que la confrontation, elle se construit, elle va monter de plus en plus entre ces deux entités. Juste pour vous citer la phrase d'un de mes amis qui m'a rapporté une conversation avec un responsable chinois. Et je pense, je parle sous contrôle de Jean-François Démilio, qui lui a dit ceci. La Chine, c'est l'empire du milieu. Notre vocation, c'est d'être au centre du monde.
Bien dit. Jean-François.
C'est le concurrent stratégique. La Chine, c'est le concurrent stratégique. L'interprétation que je fais, effectivement, de cette histoire coréenne, c'est que, comme sur beaucoup de terrains, Trump veut battre la Chine de vitesse. Il a compris que la Chine, elle était là pour longtemps. D'ailleurs, elle est là depuis longtemps. Elle est là pour longtemps. Et la seule façon de gagner cette compétition stratégique, c'est de la faire accélérer. Parce que, justement, cette montée en puissance qui va lui permettre de passer du tiers de la puissance militaire américaine à parité, elle ne peut qu'être très longue. Si on remporte une série de victoires, si c'en est une, comme celle-là, la Chine est obligée d'accélérer. Et ça va la gêner.
Il y a un intérêt économique aussi. Comment la Chine, elle va profiter économiquement d'une stabilité, quelque part, qu'on espère revenir, Jean-François?
Il y a un modèle qui dirait, la Chine a rêvé de ça à un moment, la Corée du Nord devient une espèce de super zone économique spéciale et va progressivement s'intégrer dans un modèle communiste de type caractéristiques coréennes, comme on a des caractéristiques chinoises.
Elle va, par exemple, la Corée du Nord, elle peut attirer des investisseurs. On sait que la Corée du Nord, ce sont d'importantes réserves de minerais, de terres rares, très utiles, par exemple, dans les téléphones mobiles. Une main d'œuvre, pas forcément exubérante, enfin en tout cas peu chère. Hein, Trump disait lui-même, la Corée du Nord deviendra très riche grâce aux investissements américains. La Corée du Nord, elle va peut-être moins choisir les investissements américains que les investissements chinois, Jean-François?
Oui, faut pas oublier la Corée du Sud quand même dans cette histoire. Parce que quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est que, outre les sentiments très forts et les égos très forts des deux leaders dont on a parlé, il y a un sentiment coréen, bien sûr, qui s'est dilué parce que ça fait 70 ans que les pays sont séparés, parce que l'histoire de cette péninsule a été complexe depuis des siècles. Mais on est coréen avant tout. Et donc, de chaque côté du 38e parallèle, on a des Coréens. Donc, les premiers qui vont quand même avoir envie de profiter de ça, ce sont les industriels coréens.
Une ouverture économique, ça pourrait fragiliser le régime nord-coréen ou pas?
C'est une des hypothèses. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y a dans la tête de Kim Jong-un à ce sujet-là. Il a peut-être aussi une part de lui-même, parce que en Corée du Nord, vous avez des petites zones d'enrichissement, des zones où vous avez des...
Aux frontières, notamment,
oui,
bien sûr.
Puis même
à la frontière
Séoul,
avec la Corée du
Séoul,
Sud et à la frontière chinoise, tout au nord, bien sûr.
Il a peut-être ça en tête aussi.
Tiens, justement, l'intérêt économique de Pékin, je reviens sur ce qui s'est passé le week-end, donc au forum de coopération de Shanghai, on a vu Xi Jinping annoncer que la Chine va ouvrir une ligne de crédit de 5 milliards de dollars aux membres de cette organisation via un consortium bancaire. La Chine qui va proposer un partenariat économique eurasien aux autres membres avec Moscou. Et c'est vrai, retour sur ce qui s'est passé le week-end dernier. La bonne entente au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui réunit de nouveaux entrants, l'Inde et le Pakistan, même s'ils ne sont pas forcément amis, l'Iran, qui était observateur, tous les pays de l'ex-URSS d'Asie centrale, et puis bien sûr Russie et Chine. Très bonne entente, alors peut-être de façade, je ne sais pas. Et puis de l'autre côté, le fiasco du G7. Comment on peut mettre tout ça en parallèle, Singapour, Canada et donc l'Est de la Chine ce week-end. Pierre Servent.
Alors, je pense que les historiens demain reprendront notamment ces séquences pour illustrer ce grand monde à la renverse,
ouais.
où il y a vraiment des recompositions momentanées, mais qui peuvent changer demain. Parce que je me souviens, il y a quelques années, c'est l'avantage d'essayer d'écrire des livres pour saisir toute cette actualité qui file entre les doigts. Vous aviez eu une époque très phare où Chine, Turquie, Russie s'étaient fortement rapprochés comme étant finalement le clan du refus de l'ancien ordre international et mettant en projet et faisant des grandes déclarations, notamment sur la mise en commun de réseaux énergétiques novateurs, etc., etc. J'ai suivi évidemment ce dossier comme les autres. Quelques mois plus tard, ça a explosé. Ça a explosé parce que tout d'un coup, la Turquie avait abattu un avion de combat russe, que Poutine expliquait que Erdogan était un escroc, que sa famille était des prévaricateurs trafiquant avec Daesh. Et par ailleurs, la bourse de Shanghai, craque de la bourse de Shanghai, énorme scandale industriel avec un des problèmes d'explosion.
Oui, l'explosion, etc. C'était en août 2015,
et donc,
il y a eu plus de 100 morts.
Belle affiche qui correspond à celle que vous évoquez aujourd'hui, quelques mois après, elle avait totalement été pétardée. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière ça, mais on est dans un monde d'une fluidité incroyable.
Chamboulement, changement de leadership, voilà, un nouveau monde se profile, eu égard, voilà, c'est trois séquences finalement, samedi, dimanche, et ce matin mardi, Jean-Ric Brana et Jean-François Dimiglio, et on se dit au revoir.
Moi j'écrivais il y a un an dans Train de Plante que le monde allait être bouleversé avec Donald Trump, effectivement un nouvel ordre mondial allait arriver, mais pas à cause de Donald Trump uniquement, en réalité on est passé dans un autre monde parce qu'on n'est plus dans la guerre froide, on est dans autre chose, et c'est ça qu'on est en train de voir. Le G7 c'est quoi? C'est un parapluie, le parapluie américain, et certains pays qui se mettent dessous et qui disent on est des alliés. Aujourd'hui Donald Trump il dit mais non, mais c'est terminé tout ça, vous n'êtes plus des alliés, vous êtes des partenaires économiques, donc on n'est plus du tout dans le même monde.
À la fin,
vous avez oublié. Et ce qui s'est passé aujourd'hui en Corée, c'était aussi un autre pan de la guerre froide qui tombait. Ça, j'avais un petit désaccord sur la partie économique. Je crois qu'au contraire, la Corée du Sud va essayer de jouer la partie économique, mais en passant avec les Américains. Et les Américains veulent rentrer tout de suite sur ce marché-là, plus que la partie communiste.
Allez, le mot de la fin, ça sera vous, Jean-François.
Nouveau monde, moi, je l'appelle ni G0, ni G2. Je l'appelle G2.0.
Tout juste, G2.0, voilà, pour s'adapter donc aux nouveaux critères du monde de 2018. Un nouveau monde se profile, voilà, on en parle tous les matins, notamment avec Benaoud Abdedaïm et Stéphane Soumier, notamment à 6h20, 7h40, un monde qui bouge, voilà, soyez à l'écoute tous les matins. Merci Jean-Éric Brana, donc spécialiste des États-Unis. 1968, oui, Trump avait 20 ans, quand l'Amérique gronde. Jean-François Dimiglio, directeur de la revue Asia Trends, président de l'Asia Centre, et puis Pierre Servent, auteur de 50 nuances de guerre. On vient vite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.